La première séance plénière de l'année pour le Conseil des jeunes de Dimbéa. Ils étaient réunis ce matin pour faire le bilan des actions menées en 2024 et évoquer les projets pour 2025. La remise officielle de la médaille d'or du Salon de l'agriculture de Paris attribuée à un apiculteur de l'IFOU, Paul Nekoeng, a reçu son prix ce matin des mains du président de la Chambre d'agriculture. Les jeunes du lycée Jules Garnier se mobilisent pour leurs camarades. Une collecte est organisée par l'association Solidaire devant les portes de Géant Sainte-Marie. La peine maximale pour le terroriste islamiste Mehdi Nemmouche, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour avoir séquestré 3 otages français, 3 journalistes en Syrie. Donald Trump a dévoilé un nouvel atout stratégique pour les États-Unis. Il s'agit d'un avion de chasse de 6e génération qui sera construit par l'avionneur Boeing. Le sport et la Formule 1, Lewis Hamilton met tout le monde d'accord à Shanghai. Le Britannique a signé la pole position de la course sprint du Grand Prix de Chine. Et puis les trailers ont rendez-vous ce soir pour le Nea City Trail. Les participants s'élanceront sur des parcours mis en place au départ des boucles de Tina. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, quelques mots de l'actualité judiciaire en Calédonie. Le dernier procès de la première session de l'année de la Cour d'assises de Nouvelle-Calédonie se poursuit aujourd'hui. La Cour juge une affaire de meurtre sur conjoint depuis mercredi. C'est un homme de 40 ans qui est jugé pour avoir tué sa compagne en lui assénant plusieurs coups sur le crâne avec une bouteille après une violente dispute en juillet 2022 à Nouméa. Hier, ce sont les avocats des parties civiles qui ont plaidé. Ce matin, l'avocat général a requis une peine de 20 à 22 ans de réclusion criminelle. Les plaidoiries de la défense sont en cours. Le verdict est attendu dans le courant de la journée. Rappelons que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les élus du conseil municipal de Boulot-Paris réunis hier soir à l'ordre du jour l'adoption du budget primitif 2025 de la commune. Un budget de 950 millions de francs en baisse de 7% par rapport à l'exercice précédent. Écoutez Pascal Vittori, le maire de Boulot-Paris.
On attend pour bientôt donc les aides de l'État. Et donc si on obtient ces aides de l'État dès le mois de mai, on fera une décision modificative et ça va nous permettre de continuer nos prestations. On avait du mal justement à financer jusqu'à la fin de l'année les prestations d'espace vert et les prestations de transport scolaire pour les enfants. Et donc grâce à l'aide de l'État, on va pouvoir rétablir ça assez rapidement. Et puis surtout, on continue les investissements. On prévoit encore cette année d'emprunter 50 millions pour poursuivre nos investissements. On a démarré donc début mars la construction de notre base nautique sur la plage de Bouraquet. On a démarré également l'agrandissement de notre marché communal à Boulot-Paris. On s'apprête à lancer les travaux du parc de jeux pour enfants au centre du village de Boulot-Paris. On doit également rénover le wharf de Tomo qui a été endommagé par les intempéries. Et puis on doit travailler sur nos routes, la réalisation du point à temps et puis surtout des travaux de structure puisqu'il y a 2 ans on a eu beaucoup de pluie qui ont endommagé nos routes et donc on a des travaux de structure à faire sur nos routes.
Des propos recueillis par Galinda Boicou. Le prochain conseil municipal sera consacré aux problématiques liées à la sécurité sur la commune. Première assemblée de l'année pour le conseil des jeunes de Dimbéa. Il était réuni ce matin à l'hôtel de ville de Koutio. Michael Juneski.
Oui, la première séance plénière de 2025 en présence du maire et des élus du conseil municipal pour les membres de cette instance de la commune de Dimbéa qui vise à mettre en place des actions à l'initiative des jeunes et destinées aux jeunes. Dylan et Filianga, 18 et 17 ans, font partie du conseil des jeunes de Dimbéa.
D'abord, c'était l'occasion de faire un point sur les actions qu'on avait réalisées et justement les actions que nous, on va réaliser en cours de l'année.
Notamment le premier temps fort qui va arriver en fin d'avril avec la fête de la ville de Dimbéa qui va se dérouler au Parc Fayard, où il y a aussi le World Leader Day qui va intervenir en septembre, où le CJD et différents établissements scolaires vont chercher une coopération pour intervenir dans divers endroits pour nettoyer la ville et donner une image de la commune de Dimbéa comme une ville verte.
On essaie de chercher les thématiques qui sont le plus adaptées à notre réalité et au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, des actions qui sont essentielles pour la jeunesse.
Vous aimeriez bien, finalement, que le conseil des jeunes de Dimbéa soit plus connu?
C'est très important de se faire connaître auprès de la jeunesse pour par la suite les mobiliser. Et comme l'a dit Monsieur le maire, le conseil des jeunes de Dimbéa est encore un organisme jeune.
Alors moi, je vois qu'on n'est pas assez connu au niveau de la visibilité. Nous, en fait, l'objectif, ce serait de promouvoir pour inciter aussi les jeunes à être conscients qu'on est une jeunesse construite et il faut s'engager.
Le conseil des jeunes de Dimbéa compte 18 membres âgés de 13 à 22 ans. Conseil qui célébrera cette année ses 10 ans d'existence. Les thèmes retenus cette année sont la lutte contre les tags et le décrochage scolaire.
Un apiculteur qui reçoit son prix national pour un miel primé à Paris lors du Salon de l'agriculture. Une cérémonie se déroulait ce matin au marché de Gros de Ducos, Mickaël.
Il a remporté il y a quelques semaines la médaille d'or. Paul Nekweng, fondateur de la Case du Miel, basée à Lifou, a reçu donc cette distinction remportée lors du concours agricole national. Distinction reçue des mains du président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie qui était à Paris à l'annonce des résultats. Paul Nekweng, forcément très fier de cette médaille d'or dans la catégorie miel tropical foncé.
C'est toujours le rêve des producteurs d'avoir cette belle récompense. On dit toujours le meilleur label pour un produit, c'est d'être récompensé dans un grand salon international de renommée. Donc aujourd'hui, c'est fait quoi. On est très très fiers et puis on est aussi fiers parce qu'on est représentant de la Chambre d'agriculture et on était très très content d'avoir cette belle récompense. 70% de miel de Lifou est déjà primé chaque concours local. C'est aussi grâce à la biodiversité. Il y a aussi beaucoup de bon miel ici sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un très bon produit. On a aussi le travail aussi des apiculteurs qui a un savoir-faire qu'il faut continuer à préserver. Aujourd'hui, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est vraiment un marché à l'export qui va pouvoir vraiment faire sortir au niveau de la filière miel de la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit de la seule médaille d'or pour le miel décrochée par les Outre-mer cette année et de la seule médaille pour la Nouvelle-Calédonie qui avait dû effectuer ce déplacement avec les moyens du bord, étant donné la conjoncture difficile. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Déjà, j'ai été fier et honoré de récupérer la médaille d'or pour la Case du Miel à Paris au Salon de l'agriculture. Et puis, c'était important pour nous, pour la Chambre, pour les professionnels, de mettre en avant ce professionnel de qualité et de le faire ici. Au meilleur endroit où on puisse le faire, c'est au marché du Ducos ce samedi matin, où un grand nombre de professionnels de l'agriculture et de la pêche sont réunis. Donc voilà, on a pu le faire et mettre la Case du Miel en avant et Paul qui est venu récupérer sa médaille d'or. Le miel calédonien est reconnu pour sa qualité. Ce miel foncé de la Case du Miel en est vraiment la preuve. Hein. Une médaille d'or au concours général agricole de Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est d'une part une reconnaissance, mais derrière aussi c'est une carte de visite. Ça permet aussi aux producteurs d'avoir quelque chose qui soit un vrai plus pour sa mise en commercialisation, notamment à l'export, puisqu'ils ont des projets à l'export. Donc pour nous, c'est formidable. Finalement, une médaille d'or sur un miel calédonien, c'est toute la filière apicole calédonienne qui est mise en avant.
Et pour rappel, en raison de la crise économique liée aux émeutes de 2024, une délégation restreinte de la Chambre d'agriculture et de la pêche et de la province sud était partie à Paris pour représenter la Calédonie dans la plus grande ferme du monde.
L'égalité femmes-hommes, c'est aussi sur les vélos. Cette année, c'est l'association Droit au vélo qui a été lauréat de l'appel à projet Objectif Égalité, organisé par la province sud. Le collectif organisait ce matin son premier atelier, elle en selle, Charlotte Coulson.
Un atelier qui a ramené pas mal de monde ce matin. 8 participantes à vélo. L'objectif des membres de l'association a été atteint pour cette première édition. Le but était simple, aider les femmes à se mettre ou se remettre en selle. Et pour cela, les bénévoles ont fait quelques rappels sur les équipements de sécurité du vélo, puis ont organisé des exercices de maniabilité avant une mise en situation sur la route et dans le groupe des cyclistes débutantes ou aguerries.
Allez, accélère et on freine.
Je suis là pour apprendre les différentes techniques pour mieux rouler à vélo dans la ville, notamment les freinages, en fait, en côte, des choses comme ça. Parfois, interagir avec les autres voitures, c'est pas évident.
Mais en fait, j'ai voulu tester parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de me remettre au vélo, donc c'était l'occasion. Les petits déplacements autour de la maison, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, le sport aussi. Ben là, en fait, on est en train d'essayer des réflexes parce que quand on sera sur la route, ce sera beaucoup moins facile et mais évident parce qu'on a perdu un petit peu nos habitudes. Donc là, c'est les freinages rapides, voilà, ce genre de choses.
Oui, moi je trouve que c'est bien parce que ça permet à certaines femmes qui peut-être n'en font pas ou n'ont pas confiance, ben de justement prendre confiance, d'apprendre des choses et puis peut-être après de se lancer.
Et si vous avez raté l'événement ce matin, pas de souci, vous pouvez déjà noter le rendez-vous dans votre agenda car le prochain atelier Elle en selle se tiendra le 17 mai. En attendant, la journée continue avec l'association Droit au vélo. Jusque 19h, les bénévoles sont aussi présents à la Maison de la Biodiversité à Sainte-Marie. Au programme cet après-midi, une bourse au vélo, des ateliers réparation et la projection d'un film en fin de journée.
La solidarité prime au lycée Jules Garnier. Des jeunes du lycée ont rejoint l'association LJG Solidaire dans une collecte de denrées alimentaires organisée à l'entrée de Géant-Sainte-Marie ce matin, Charlotte.
C'est d'un constat malheureux que par cette initiative, celui que la précarité augmente chez les jeunes du lycée, les élèves comme les étudiants. En 2023 déjà, la ressourcerie de l'établissement scolaire était créée pour permettre de fournir les lycéens en fourniture, en nourriture et en vêtements. Le besoin semble s'être accru cette année. Des élèves de lycée et de BTS se sont donc portés ambassadeurs solidaires pour mener à bien cette collecte de nourriture. Orlane est l'une d'entre eux. Elle est étudiante en deuxième année de BTS.
J'ai voulu être ambassadrice, c'est pour aider un peu les profs et nous aider entre nous. Et en ce moment, il y a beaucoup de précarité due à la crise et aux émeutes aussi, à tout ce qui s'est passé. Surtout vis-à-vis des transports, tout ça, comme j'ai des camarades de classe qui ont du mal à payer leur fourniture, tout ça, comme ils gardent leurs pièces pour prendre le transport et comme c'est devenu cher aussi. Les dons qu'on va récolter grâce à ces collègues, ça va servir à aider les élèves et les gens du lycée, ceux qui sont dans le besoin, tout ça, ceux qui manquent d'argent pour aller faire leurs courses ou leurs fournitures scolaires. Tout ça.
Un appel à la solidarité qui a été entendu des Calédoniens puisqu'ils sont plusieurs à être ressortis du Géant Sainte-Marie avec quelques sacs pour les jeunes du lycée Jules Garnier.
J'ai entendu leur appel à la radio, donc du coup je suis venue et puis je vais prendre le nécessaire, ce que je pourrais. Quoi. Les étudiants, c'est pas normal qu'ils aient besoin de choses comme ça. Je sais pas, moi ça me désole. Quoi.
Alors oui, je compte donner des produits d'hygiène et puis des produits alimentaires. Je pense que c'est important d'aider les étudiants et les élèves à pouvoir étudier dans de bonnes conditions et pour qu'ils se sentent bien aussi en cours.
J'ai pris des pâtes et des gâteaux parce qu'en ce moment, je pense qu'il est très important d'aller vers les autres. Je ne me vois pas manger à mon aise et puis des autres qui sont en grande difficulté.
Et les assistantes sociales et les professeurs principaux du lycée auront ensuite la charge d'identifier les élèves en grande difficulté pour leur distribuer des paniers faits à partir des denrées récoltées ce matin. Et si vous passez par le Géant Sainte-Marie, sachez que la collecte dure encore jusqu'à 14h.
En bref, rappelons que la culture des mangas est à l'honneur à l'Hyper-U Païta. L'Hyperboule Manga Festival a débuté ce matin et continue ce soir jusqu'à 19h ainsi que demain matin. Et puis ce dimanche, vous pourrez aussi profiter d'un moment en pleine nature avec la première fête du jardin de l'année. Elle est organisée à Farino sur la place de la mairie. C'est entre 7h et midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 58% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le poids de la dette de la Nouvelle-Calédonie est trop important dans le projet de budget adopté par le gouvernement. Ils sont 42% à ne pas partager cet avis. Rendez-vous lundi désormais pour une nouvelle question du jour. Il est midi 14, on marque une première pause dans le journal à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Du 21 au 23 mars, la Chambre de métiers et de l'artisanat organise le Salon Habitat Déco à la Maison des Artisans. Un projet de construction, envie de redécorer votre intérieur, besoin d'inspiration? Retrouvez toutes les tendances, des exposants passionnés et des conseils d'experts pour donner vie à vos envies. Le Salon Habitat Déco, c'est du 21 au 23 mars à la Maison des Artisans et l'entrée est gratuite.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
RRB, il est midi 15, la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité judiciaire en métropole. Le terroriste islamiste Mehdi Nemmouche a été condamné tôt ce matin pour nous à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans par le tribunal spécial de Paris. Il était jugé pour son implication dans l'enlèvement et la séquestration de 3 otages français, 3 journalistes en Syrie. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
La cour a décidé de suivre les réquisitions du parquet antiterroriste. Elle a donc déclaré Mehdi Nemmouche coupable de tous les crimes qui lui étaient imputés, de séquestration, d'actes de torture et de barbarie, d'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Peine maximale donc assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Pour la cour, Mehdi Nemmouche était bien le geôlier des 4 otages français. Justice a été rendue pour Nicolas Hénin. Écoutez l'ex-otage du djihadiste.
C'est une immense justice qui a été rendue. Nous sommes tous extrêmement satisfaits. Ce ne sont pas que les otages français qui ont été pris en compte. Ce sont tous les otages du monde entier. Bien sûr, il ne s'agissait pas de faire le procès de Daesh en général, mais il était essentiel d'internationaliser cette prise d'otages de masse qui impliquait aussi des auteurs de nombreuses nationalités différentes.
C'est donc là la deuxième condamnation à perpétuité de Medine Mouche. La justice belge l'avait déjà condamné à la peine maximale après l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014. Concernant les deux autres accusés, ils écopent respectivement de 22 ans de prison et 20 ans de prison. Tous ont 10 jours maintenant s'ils veulent faire appel de ce jugement.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que deux jeunes aspirants djihadistes ont été interpellés dans le département de l'Ain il y a quelques heures alors qu'ils tentaient de rejoindre la Syrie. Selon la DGSI, les deux suspects de 19 et 24 ans planifiaient de rejoindre la brigade Omar Diaby dans le nord-ouest de la Syrie. Les deux hommes étaient en contact avec les terroristes syriens via des messageries cryptées. Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. En métropole toujours, les services de sécurité craignent des débordements violents la nuit prochaine à Paris en marge d'une manifestation à l'appel de la France insoumise et de collectifs d'ultra-gauche contre le racisme et le fascisme. Plusieurs centaines de policiers seront mobilisés et les contrôles ont déjà débuté dans les gares parisiennes et sur les grands axes routiers autour de la capitale. J'ajoute que LFI, qui appelle donc à cette manifestation, a été condamné cette nuit pour nous à verser 3500 euros à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. Le mouvement dirigé par Jean-Luc Mélenchon avait fait la promotion de cette manifestation en publiant un visuel reprenant le visage de l'animateur télé et en reprenant les codes des affiches antisémites des années 30. Au lendemain de la réquisition à 10 ans de prison par le tribunal d'Alger à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Aboualem Sansal, ses soutiens dénoncent ce qu'ils qualifient de condamnation à mort pour cet homme de 80 ans qui est atteint d'un cancer. L'écrivain est emprisonné depuis novembre 2024 pour atteinte à la sûreté de l'État algérien. L'avocat de Aboualem Sansal était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il a dénoncé les conditions de la tenue du procès de son client, un procès auquel Maître François Zimeret n'a pas pu assister.
C'est une violation de toutes les règles et tous les traités ratifiés par l'Algérie et néanmoins violés par ce pays, bafoués par ce pays. Et il ne peut pas y avoir de procès équitable, c'est-à-dire de procès juste, si l'avocat ne peut pas voir son client, s'il ne peut pas avoir accès à son dossier. À travers Aboualem Sansal, ce que l'Algérie cherche à atteindre, c'est précisément la France. Pour ce qu'elle est, la France aussi pour ce qu'elle représente, notamment en matière de liberté, en matière d'idéal, de laïcité. C'est ça aussi, l'incarcération arbitraire et lâche de Aboualem Sansal porte la marque.
François Zimeret, l'avocat de l'écrivain franco-algérien Aboualem Sansal. Dans l'actualité également, cette nouvelle conférence de presse de Donald Trump depuis le bureau ovale à la Maison Blanche. Le président américain a dévoilé un nouvel atout stratégique pour les États-Unis. Il s'agit d'un avion de chasse qui sera baptisé F-47 et qui sera construit par l'avionneur Boeing. C'est un contrat d'un montant de 100 milliards de dollars qui a été signé par Donald Trump avec le constructeur américain. Ce nouvel avion de combat, qui sera le premier avion de sixième génération, devrait entrer en service d'ici 2030. Maxime Gondelot pour Europe 1.
Pourquoi F-47 alors que le F-22 est encore aujourd'hui en activité ? Eh bien, tout simplement parce que Donald Trump a été élu en janvier le 47e président des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le locataire de la Maison Blanche ne tarit pas d'éloges à son sujet.
La concurrence était très rude, mais cet avion a produit des chiffres que personne n'avait jamais vus auparavant. Le F-47 sera l'avion le plus avancé, le plus performant et le plus meurtrier jamais construit.
Un design futuriste, plus furtif et une vitesse pouvant atteindre Mach 2, soit environ 2500 km à l'heure, Xavier Titelman, spécialiste des questions aéronautiques, précise les capacités de ce F-47.
C'est ce qu'on appelle un avion de sixième génération. Il a une connectivité élevée. Un avion doit être accompagné par trois drones de combat. On connaît ces capteurs. C'est des capteurs de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un récepteur via toute la peau de l'avion qui va être capable de détecter les ondes électromagnétiques autour de nous, donc ça rend plus efficace la détection des radars ennemis, par exemple. On a des optiques qui vont aller plus loin. On a des armes hypersoniques qui vont aller à plus de Mach 5.
Pour l'instant, aucun prix n'a été annoncé pour cet avion, mais Donald Trump a d'ores et déjà prévenu, en cas de vente, ces F-47 seront diminués de 10% de leur capacité totale, à l'image un peu des F-35 vendus à l'Australie.
Maxime Gondelot du service international d'Europe 1. En Angleterre, les vols reprennent progressivement à l'aéroport de Londres Heathrow, qui est l'un des aéroports les plus fréquentés du monde. La plateforme aéroportuaire a été fermée pendant près de 24 heures à cause d'une panne électrique provoquée par un incendie dans une centrale électrique. Des milliers de vols ont été annulés, des perturbations qui touchent le monde entier et qui vont se poursuivre pendant encore plusieurs jours. Si les conséquences sont si importantes, c'est parce que plus de 230 000 passagers transitent chaque jour par cet aéroport. Tous les vols arrivant à Heathrow ont dû être déroutés, mais cette réorganisation du ciel mondial a des limites, explique Julien Joly. Il est expert aérien.
Même si on peut faire du report vers d'autres aéroports de la capitale londonienne ou vers d'autres grands hubs européens à proximité, ces aéroports-là ont aussi leur plan de vol, ont aussi des passagers à accueillir. Il y aura forcément des passagers qui ne vont pas pouvoir trouver de vol. Et pour ces passagers-là, il faudra bien sûr les indemniser.
La problématique de l'indemnisation des passagers, qui est un sujet qui a été abordé lors d'une réunion en urgence de la IATA, l'Association internationale du transport aérien, qui a laissé entendre que les frais pour rembourser les passagers ne devraient pas incomber seulement aux compagnies aériennes impactées par la fermeture de l'aéroport. Allez, retour en métropole avec le coup d'envoi ce matin de la 31e édition du SIDAction. Il s'agit, vous le savez, de collecter des fonds pour aider la recherche, mais aussi pour financer les opérations de prévention, car les fausses informations et les idées reçues sur le VIH n'ont jamais été aussi répandues, notamment chez les jeunes. C'est en tout cas ce que révèle une enquête publiée par SIDAction et réalisée auprès de jeunes âgés de 15 à 25 ans. Mathieu Prior pour Europe 1.
Quand on demande à ces jeunes lycéens ce qu'ils savent du VIH, leurs réponses ont de quoi laisser perplexes.
Je sais pas ce que c'est le VIH. C'est quoi le VIH ? Je pense que ça peut se transmettre en buvant dans le même verre que quelqu'un ou en utilisant la brosse à dents de quelqu'un d'autre. C'est possiblement transmissible quand tu bois ou même pas à travers un baiser ou un truc comme ça.
Le VIH, c'est une autre manière d'appeler le sida.
Les 15-24 ans sont 40% à penser qu'on peut guérir du sida ou encore qu'il existe un vaccin. Florence Thune, directrice générale de l'association SIDAction, dénonce la disparition des campagnes d'information, ce qui donne lieu à des discriminations.
Beaucoup de jeunes oublient que le VIH est toujours là, mais en même temps, ils restent avec une chose, c'est ces espèces de fantasmes et de peurs irrationnelles vis-à-vis alors, du VIH, mais surtout des personnes séropositives. Ce qui va à l'inverse des progrès scientifiques de ces dernières années, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement, non seulement on reste en bonne santé, mais en plus on n'a aucun risque de transmettre le VIH. Mais ce qui reste, ce sont les peurs.
En septembre prochain, la prévention contre le VIH sera au menu du programme d'éducation sexuelle au collège et au lycée pour sensibiliser les plus jeunes.
Mathieu Prior pour Europe 1. Il est midi et 23 minutes. Nous allons marquer une dernière pause dans ce journal à suivre toute l'actualité sportive.
La Chambre d'agriculture et de la pêche organise sa vente annuelle de bovins jeudi 27 mars à partir de 9h à la station d'élevage de Nessadio à Bouraille. Seront mises en vente des taureaux Belmont Red et Limousin ainsi que des femelles gestantes Limousine. Pour plus d'informations, contactez la station d'élevage au 75 11 24 ou 44 52 45.
Jusqu'au vendredi 4 avril, Tradition Thaïlande vous invite à jouer pour tenter de gagner une carte VIP pour vous offrir des heures de bien-être et de détente. Un cadeau exceptionnel d'une valeur de 150 000 francs. Pour participer, c'est simple. Envoyez « chance » au 40-20 dès maintenant. Plongez dans l'authenticité thaïlandaise au Faubourg Blanchot avec une sélection de 16 massages allant de 20 minutes à 2h30. Un moment unique de détente vous attend chez Tradition Thaïlande. Réservation en ligne, bon cadeau. Tradition Thaïlande vous accueille au 11 route du Port des Pointes et sur Facebook. Téléphone 43 04 20. Alors pour tenter de gagner des heures de bien-être, envoyez « chance » au 40-20. Tirage au sort le vendredi 4 avril à 14h. 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec le sport.
Et on va commencer avec le sport en Calédonie. Le Nea City Trail, c'est ce soir un rendez-vous qui se veut une grande fête pour les trailers, Michael Juneski.
Exactement, 3 courses seront proposées avec des distances pour tous les niveaux, mais pas de parcours aux difficultés trop exigeantes. Ça se passera dans le domaine de Tina et au coucher du soleil, avec de nombreuses animations pour des épreuves où le mot d'ordre sera l'amusement. Un grand show de lumière. L'objectif, en mettre plein les yeux aux participants. Julie Prunet, de Pro Evans qui organise ce rendez-vous était notre invité lundi dans le Mac des Sports.
Le fun avant tout sur la Nea City Trail, c'est vrai que c'est un événement où on essaye d'avoir le maximum d'animation et on voulait vraiment mettre des paillettes dans les yeux des Calédoniens. C'est pas un gros trail comme on a pu les organiser, pas technique ni rien, mais c'est vraiment découvrir d'une autre manière les boucles de Tina dans une ambiance de folie, surtout au niveau du village. Puis on a la troupe Crunk qui va venir animer avec des ateliers jonglerie, des jeux en bois. Ensuite, on a la Rémora Production qui va pouvoir nous créer un parcours et un village, mais on se croirait en boîte de nuit, en gros. C'est un gros événement qu'on a toujours voulu faire évoluer et cette année, on s'est dit, on le fait évoluer et on a encore mis le paquet sur tout ce qui est animation et grâce à Rémora Production et aux autres partenaires comme Lagoon et Terre de Running aussi.
Des parcours donc de 3 km, 8 km et 15 km en fin d'après-midi et début de soirée. Un événement organisé par Pro Events en partenariat avec RRB.
Un mot de football, on va rappeler que la sélection calédonienne a battu hier la Polynésie française en demi-finale des qualifications à la Coupe du Monde. Les Calédoniens sont imposés 3-0. Ils défieront en finale, l'équipe de Nouvelle-Zélande, ce sera lundi à Auckland. La Nouvelle-Zélande qui s'est qualifiée en s'imposant 7-0 sur Fidji. Le sport sur la scène nationale et internationale, on va parler Formule 1 avec la course sprint du Grand Prix de Chine qui est au menu cet après-midi.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est Lewis Hamilton au volant de sa Ferrari qui a signé la pole position en vue de cette première course sprint de la saison, Michael.
Le Britannique, désormais sous les couleurs de la Scuderia, a frappé un grand coup en signant la pole position pour cette sprint race avec record du tour le plus rapide à la clé. De quoi faire oublier évidemment la mauvaise prestation des Ferrari en Australie le week-end dernier. Hamilton qui a devancé la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren d'Oscar Piastri. Il a hâte d'en découdre après plusieurs saison passée presque dans l'ombre, hein, quasiment dans la peau d'un spectateur chez les Mercedes qui n'était plus en mesure de l'emmener vers son 8e titre mondial dont il rêve toujours. On écoute Lewis Hamilton.
Je n'attendais pas ce résultat. Tellement heureux et tellement fier. La dernière course, j'ai dit, a été un désastre. Et on savait qu'il y avait de la performance dans cette voiture à extraire. Bien sûr que ce n'est pas la course principale. Il reste encore du travail demain, mais c'est un beau pas en avant pour la course.
Un petit mot des performances des Français lors des qualifications en vue de cette sprint race. Isaac Hadjar a réalisé le 15e temps de référence. Pierre Gasly et Esteban Ocon partiront quant à eux respectivement des 17e et 18e positions. La première course sprint de l'année sera à suivre à partir de 14h cet après-midi. Ce sera suivi des qualifications, cette fois en vue de la course à partir de 18h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, encore un peu de sport mécanique avec le gallois Elfyn Evans qui est en tête du rallye du Kenya.
L'Estonien Ott Tänak qui était aux commandes jusqu'à la 8e spéciale a perdu la tête du classement au profit donc du gallois sur Toyota. Elfyn Evans suivi de son coéquipier le finlandais Kalle Rovanperä. Adrien Fourmeau, le français, a connu plusieurs déconvenues, crevaison puis casse moteur sur sa Hyundai. Il reste encore 11 spéciales au menu ce week-end.
Les sports d'hiver, une nouvelle médaille d'argent pour les français aujourd'hui sur l'étape de la Coupe du Monde de biathlon, c'est à Oslo.
Jean Monod qui a terminé de peu à la deuxième place du sprint féminin, juste derrière l'Allemande Franziska Preuss. Lou Jean Monod qui perd des points précieux dans l'optique d'aller chercher le gros globe de la discipline alors que l'Allemande prend de l'avance au classement général. Chez les messieurs, c'est un podium 100% norvégien aujourd'hui avec Johannes Boe qui l'a emporté. Le meilleur tricolore Quentin Fillon-Maillet a terminé à la 7e place.
Et du tennis et des tricolores qui sont engagés dans la suite du Masters 1000 de Miami.
Egil Monfils qui a réussi à prendre le dessus sur le tchèque Jiří Hlinka 6-1, 3-6, 7-6 et même une balle de match sauvée pour Gaël Monfils avant de parvenir à s'imposer. En revanche, Corentin Moutet s'est incliné en 3 manches face au Chilien Alejandro Tabilo. Quentin Hollis lui aussi n'a rien pu faire face à l'Italien Lorenzo Musetti. Une défaite 3-6, 7-6, 7-5. Quant à Alexandre Muller, il est opposé en ce moment même à l'Argentin Francisco Cerundolo. Pas mieux chez les féminines. La tricolore Caroline Garcia a été sortie par la numéro 2 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek.